Beaucoup de Sœur Josepha, et je vais vous parler d'une autre dame qui n'est pas encore sainte mais qui est vénérable, c'est Luisa Picaretta. Elle a reçu aussi de Jésus de magnifiques révélations que on a vraiment un grand plaisir, Philippe et moi, à vous faire connaître. Luisa Picaretta. Donc elle est italienne. Elle est née le 23 avril 1865 en Italie, à Corato, le dimanche de la Miséricorde. À 9 ans, je vous parle un petit peu d'elle, pour, comme ça vous voyez qui c'est. À 9 ans, elle fait sa première communion, elle reçut le sacrement de confirmation, et donc dès son plus jeune âge, elle pouvait rester dans l'église agenouillée, immobile pendant plusieurs heures, à 9 ans. À 12 ans, elle a commencé à entendre la voix de Jésus intérieurement. À 13 ans, elle est appelée sur le balcon de sa chambre, et là, dans la rue, elle voit Jésus portant sa croix, et extrêmement souffrant, qui la regarde et qui lui dit « Âme, aide-moi ». Et là, elle est terrassée. Elle a vu la souffrance du Christ et ça va vraiment complètement changer sa vie. À 17 ans, elle commence à vomir sa nourriture et elle est obligée de garder le lit par intermittence. Elle reçoit la couronne d'épines qui lui cause des spasmes tellement douloureux qu'elle ne peut plus rien avaler, plus rien boire. Dès lors, Luisa vit dans une abstinence presque totale de nourriture, mais pour la totalité de sa vie, c'est-à-dire 64 ans, elle restera sans manger, sans boire, finalement, comme Marthe Robin. Mais plus longtemps, puisque c'est 64 ans, se nourrissant uniquement de l'Eucharistie et de la divine volonté, autrement dit de la volonté de Dieu. Et c'est surtout de ça que je vais un tout petit peu vous parler. Je vais comme juste un peu soulever le voile de tout ce que Jésus lui a révélé pour nous, mais vraiment pour nous. Alors à 22 ans, donc elle garde le lit en permanence, elle ne se lève plus du tout, elle a des souffrances énormes. Je passe un peu, à 23 ans, elle reçoit la grâce des épousailles mystiques. À 24 ans, elle reçoit le don de la divine volonté. Et à 34 ans, elle commence à écrire les livres de la divine volonté. Donc ce sont des livres comme ceci. Voilà. Et il y en a 36. Oui, ce n'est pas des très gros livres. Il y en a, ils sont parfois un petit peu plus gros ou un petit peu plus fins, mais il y a 36 petits volumes comme ceci. Ce sont toutes les révélations de Jésus à Luisa. On les a tous achetés parce que quand on a commencé à lire un, on n'a plus pu s'arrêter de le lire parce que Dieu se dévoile vraiment. Jésus se dévoile vraiment. Il nous dévoile des choses de sa vie que personne n'imaginait encore. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je vais vous dire. Oui. Alors, à 49 ans, elle complète les 24 heures de la Passion. Donc, ceci, c'est ce livre-ci. Voilà, je l'ai ici imprimé. C'est vraiment Jésus qui parle ici dans le livre. Il explique chaque moment de sa Passion. Et on connaît chaque blessure a pour Jésus une cause, une raison pour laquelle il souffre chaque blessure, que ce soit couronne d'épines, flagellation, etc., ou le cœur, surtout le cœur, Gethsémani. Il explique, c'est extraordinaire. Alors Jésus a dit, chaque mot, quand on lit ce livre, vraiment on est en union avec Jésus, et il a dit, chaque mot, à chaque mot tu sauves une âme. C'est assez extraordinaire, assez extraordinaire. Ça vaut pour nous aussi quand on médite ce livre-là. Alors à 65 ans, elle complète un autre livre, La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est celui-ci, qui est très beau. Marie explique tout ce qu'elle a vécu avec Jésus quand elle était enceinte, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. On découvre aussi Marie d'une façon inégalable, je trouve. Le 20 novembre, en la fête du Christ roi, Monseigneur Cassati, en l'église mère de Corato, procède à l'ouverture officielle du procès de béatification de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. J'ai oublié de vous dire qu'elle était décédée le 4 mars 1947, donc demain, ce sera l'anniversaire de sa mort. Oui. Voilà. Alors, un de ses conseillers spirituels, Saint Annibal di Francia, est un confesseur extraordinaire de Luisa pendant 17 ans, nommé par l'Église pour ses écrits. Voilà, il était canonisé par le pape Jean-Paul II le 16 mai 2004.
Elle est canonisée.
Elle est en voie de sainteté, mais ce n'est pas encore tout à fait fait. La congrégation, en 2008, la congrégation pour la cause des saints a soumis pour examen les écrits de Luisa. Et après presque trois années, soit le 23 juillet 2010, deux censeurs théologiques désignés par le Saint-Siège pour examiner les écrits de la servante de Dieu ont donné leur approbation. Alors Luisa nous dit, je vous dis un petit mot de Luisa ici. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui liront ces écrits. Je vous en prie, je vous en supplie, prenez avec amour ce que Jésus veut nous donner, c'est-à-dire sa volonté. Mais avant de vous donner sa volonté, il lui faut la vôtre. Autrement, sa volonté ne pourra pas régner en vous. Si vous saviez, grâce à son amour, Jésus veut vous faire le plus grand des dons du ciel et de la terre, c'est-à-dire sa volonté. Donc nous pouvons recevoir la volonté de Dieu, c'est un don, comme le don de la foi, et ça c'est tout nouveau. Mais je vais vous confier l'un de mes secrets, c'est toujours Luisa qui parle, écoutez. En retirant de l'homme le royaume de la volonté divine, Dieu n'a pas dit qu'il ne la redonnerait pas aux hommes. Il le garde de côté dans l'attente des générations futures, prêtes à les inonder de grâces surprenantes, prêtes à les éclairer d'une lumière éblouissante, éclipsant le vouloir humain qui leur avait fait perdre un royaume si sacré. Alors, il y a encore ici un petit message du Padre Pio que je ne vous lirai pas, je vous dis simplement que il aimait beaucoup Luisa, et quand quelqu'un allait voir le Padre Pio et que ce quelqu'un habitait pas loin chez Luisa, il lui disait « Mais retourne chez toi, tu as une sainte chez toi, vas-y. » Voilà, donc. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des écrits. Je vous en parle très peu parce que c'est tellement énorme. Et moi, je n'ai pas encore tout lu, en fait. Je suis au livre 19. Mais je suis passionnée par ça, ça m'a passionnée. Je pense que ça passionnera beaucoup de personnes. Donc, vous savez que Jésus nous a appris le Notre Père, et que dans le Notre Père, il a dit « Père, que ta volonté soit faite, et que ton règne vienne. » Que ton règne vienne. Ça veut dire que du temps de Jésus, le règne de la divine volonté n'est pas encore là, et qu'il n'est pas encore ici maintenant. Quand on voit comme nous sommes, nous les hommes d'aujourd'hui, nous sommes pires que les gens de Babylone. Donc, malgré la rédemption, malgré le Saint-Saint Jésus, son sacrifice inouï pour nous et tout son amour, on est encore loin des êtres d'amour, vraiment, et d'être dans la volonté de Dieu. Et donc, il y a ce temps de la création, avec Adam et Ève. Il y a le temps de la rédemption, on en a parlé ici, plusieurs personnes en ont parlé. Et Jésus nous annonce un temps de la sanctification, c'est-à-dire un temps où il nous appelle à une sainteté tout à fait nouvelle, par sa grâce, pas par notre grâce, c'est-à-dire pas par notre volonté, mais par la sienne. Et pour qu'on arrive dans cette volonté de Dieu, il faut qu'on dise comme Marie, que ta volonté soit faite, je suis ta servante, je te donne ma volonté. Et laisser la volonté de Dieu nous travailler. Il nous le dit dans le livre, c'est lui qui fait le travail. Nous, il faut qu'on lui donne notre volonté.
Notre bonne volonté.
Notre bonne volonté. Ici, c'est Jésus qui parle. Il nous explique que... Il dit à Luisa, regarde ce ciel. Regarde ce ciel étoilé. Tu vois toutes ces étoiles, toutes ces constellations. Tout ça tient ensemble. Tout ça est relié. Toutes les étoiles, toutes les constellations ont une relation les unes avec les autres et tout se tient dans un équilibre ordonné. Il n'y a rien qui fonctionne mal. Tout est soumis à la volonté de Dieu. Et tout fonctionne parfaitement. Si une seule étoile perd sa place, c'est le chaos dans l'univers. Parce que tout tient ensemble. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, ils étaient comme ça. Il a voulu créer l'homme à son image. Il l'a créé d'abord. Il a créé Adam et Ève à son image. Et si Adam et Ève étaient restés dans la volonté de Dieu, nous serions tous comme les étoiles du ciel, en harmonie les uns avec les autres, nous apportant les uns aux autres son amour, sa paix, sa joie, et ce serait encore le paradis sur terre. Mais comme Adam et Ève ont fait leur volonté, ils se sont séparés de la volonté, ça a été le chaos dans l'humanité. Je vous lis ce que Jésus dit, donc il explique les étoiles, je vous l'ai dit. Si Adam n'avait pas commis la faute originelle, se séparer de la volonté divine, toutes les choses qu'aurait fait Adam et que ses descendants auraient fait auraient été mises en commun. Chacun aurait eu en sa possession sa force personnelle, mais aussi celle de tous les autres. Tous les biens auraient été mis en commun. La volonté de Dieu aurait tenu tous les hommes ensemble et leur aurait procuré tout ce qui est bon et sain. Chacun aurait été converti en lumière et aurait été lumière pour les autres. Quand la volonté divine qui devait tout harmoniser chez les créatures fut rejetée, puisqu'ils ont voulu faire leur volonté, c'est ça le péché d'Adam, c'est le péché d'orgueil. « J'ai pas besoin de toi, Dieu, je crois que je vais bien me débrouiller tout seul. Je vais faire ma volonté humaine. » Quand la volonté divine qui devait tout harmoniser chez les créatures fut rejetée, ce fut le désordre, la confusion, la désunion, la faiblesse, la noirceur. Le pauvre ciel des créatures devint sens dessus-dessous. Seule la vie dans ma volonté y ramènera l'ordre et y fera resplendir une nouvelle lumière. Donc, quel est le but de ce message? C'est extraordinaire. C'est que Dieu, par ce message, Jésus, par ce message, veut nous donner cette occasion de revenir dans sa volonté, comme Adam et Ève étaient au départ avant la chute dans sa volonté, et nous faire revenir à cet état de sainteté dans lequel se trouvaient Adam et Ève. La même sainteté que Marie avait sur la terre. La même sainteté que Jésus, puisque nous étions faits à son image. Et donc il veut nous ramener de cette obscurité à cette lumière. Ça, c'est le but de ce message. C'est vraiment un chemin de sainteté. Il nous faut pour ça donner notre propre volonté et s'informer, avoir la connaissance de ce qui se passe ici, c'est-à-dire lire ces livres. Jésus a bien dit, lorsque on lit ces livres, c'est lui qui nous sanctifie. Je vous assure, on a commencé à lire ces livres, Philippe et moi, il vous en parlera après. Notre vie est transformée. Ce sont vraiment des livres saints qui nous transforment. Comme l'Eucharistie, je veux dire. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est vivre dans la divine volonté? Mais je vais faire un petit rappel de Sœur Josepha. Parce que quand Sœur Monique nous a demandé de lire le livre de Josepha, moi, il y a une phrase que je n'ai jamais oubliée. Et que j'ai souvent dite au groupe de prière. Et que j'ai souvent dit à d'autres personnes. Cette phrase, elle m'a toujours hantée. Parce que je l'aime, hein, mais hantée positivement. Jésus disait, quand je balayais l'atelier de mon père, j'apportais autant de gloire à mon Père du ciel que durant ma vie publique. Il n'a pas dit pendant les 30 ans de ma vie cachée, il a dit pendant qu'il balayait. Et il a fait ça toute sa vie, Jésus. Il n'a pas arrêté de réparer. Parce qu'en fait, Jésus balayait avec amour, il balayait et il refaisait, si vous voulez, tous les gestes que nous avons faits. Il pensait à tous les péchés des hommes et il réparait par sa façon d'agir, par sa pensée, par ses prières. Depuis qu'il était dans le sein de Marie, ça il l'explique bien chez Marie, déjà à peine dans l'embryon, il a commencé à souffrir. Comme dans sa passion. Jésus n'a pas arrêté de souffrir. On croit que pendant 30 ans, Jésus... Ah non. Jésus a réparé. Depuis qu'il a commencé à exister, il a réparé jusqu'à sa mort. Et donc, ça veut dire que quand il balayait, vous vous rendez compte comme ce geste est simple. Il apportait autant de gloire à son père. Pourquoi ? Mais parce qu'il était en union totale avec son père et que donc son geste était sacré. Il était devenu sacré et il offrait ce geste. Il offrait cet amour. Et il nous demande de faire pareil, de tout faire comme lui par amour. On va aller faire un gâteau, eh bien, il voudrait bien faire ce gâteau avec nous. On va aller faire une promenade, eh bien, il voudrait venir promener avec nous. On va à la messe, il vient avec nous. On va rencontrer quelqu'un, il vient avec nous. Et en venant avec nous, si on le prend vraiment avec nous, il va rendre sacré chaque geste, chaque pensée que nous faisons. Et l'offrir au Père, en réparation pour tous ceux qui pêchent, si vous voulez, et pour nos péchés à nous. Je vais expliquer mieux. Il dit, « Vois mes nombreuses prières nocturnes jalonnées de larmes amères et de soupirs ardents pour le salut de tous. Elles sont dans l'attente de déverser leurs fruits sur les créatures. » Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a souffert, doit porter du fruit. Mais c'est encore en suspens, dit-il, dans le ciel. « Ma volonté garde en réserve toutes les peines de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des prodiges de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires, les peines de ma vie publique, toutes les peines cachées de la passion. » Parce qu'il y a aussi des peines cachées dans la passion, qui nous dévoilent ici, qu'on n'imagine pas. Surtout les peines de son cœur à Gethsémani, c'est épouvantable. Il a souffert presque plus à Gethsémani que sur la croix, plus. Leurs fruits sont en suspens, n'ayant été cueillis que partiellement par les créatures. Nous n'avons pas cueilli tous les fruits de ce que Jésus a souffert pour nous. Parce qu'on les ignore, en fait. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté et seulement dans ces âmes qu'ils seront totalement déversés. Et Jésus nous demande que nous fassions réparation avec lui. C'est ça, c'est un chemin de sainteté. Tout faire pour réparer avec lui tous les outrages qu'on a fait à Dieu. Et on en a fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est dernièrement, la semaine passée, c'était sur le net. J'ai vu une émission, j'ai à peine regardé, sur le Poste français, où il se moquait de Jésus, parce qu'il y a un film qui sort sur Jésus. Et alors, ils ont cassé l'image de Jésus, de la croix, des plaies, des clous, c'était effrayant. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai revu Jésus, comme il explique là, à sa passion, hein, les outrages, les crachats, les blasphèmes. C'est encore aujourd'hui que Jésus vit sa passion. Ce que doit faire la créature avec le don de la divine volonté. Très chère fille, de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté afin de suppléer d'une manière divine pour les nombreux actes omis par tes frères et sœurs, pour ceux si nombreux réalisés humainement, de même que pour les actes saints réalisés dans l'ordre humain. Parce qu'il dit, il y a des saints. Oui, ils sont saints. Mais ils sont saints par leur propre volonté, par leur propre volonté humaine. Jésus veut que nous devenions saints par sa volonté. Et cette volonté-là est encore plus grande que la volonté que les saints. Voilà. Mais c'est lui qui fait, sœur Monique, c'est lui qui fait, c'est pas compliqué, si on lit bien, c'est lui qui fait. J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore content. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que, d'une manière divine, elle vienne transformer tous ses actes en les miens. Si je fais la vaisselle, eh bien Jésus, je fais la vaisselle avec toi. Jésus vient en nous, il fait cette vaisselle avec nous, c'est fou, hein, ça ? C'est fou, hein ? Il fait cette vaisselle avec nous, et du coup, cet acte de faire la vaisselle est porté au ciel par Jésus en nous, est sacré et va servir d'offrande en sacrifice, quelque part. C'est un sacrifice. C'est aussi une forme de sacrifice. Ainsi donc, viens, viens. Je languis d'impatience, je le désire à ce point que je deviens tout en joie quand je vois que la créature entre dans ma divine ambiance, se multipliant avec moi dans toutes les âmes. Je vais vous expliquer. Aimant, faisant réparation, se substituant à toutes les âmes d'une manière divine. En ces créatures, Les choses humaines ne se reconnaissent plus, elles sont devenues des choses divines. Donc quand je fais ma vaisselle et que je demande à Jésus de venir m'aider, il est dans mes mains, là, ce sont les mains de Jésus qui fait la vaisselle, tout simplement, voilà. Eh bien, c'est devenu un acte divin, parce que Jésus l'a fait en nous. C'est inouï, on n'imagine pas ça. Et c'est pourtant Jésus qui le dit. En elle, mon amour augmente, se multiplie, les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Donc c'est vraiment un chemin de sanctification. Alors comment vivre de la divine volonté? Mais Jésus nous dit qu'il faut s'instruire. S'instruire, c'est ça. C'est lire, c'est comme la parole de Jésus. C'est la parole. C'est une, si vous voulez, comme un nouvel évangile. D'abord, vous voyez, ce livre s'appelle le livre du ciel et c'est Jésus lui-même qui a choisi ce titre. Quand Louise a terminé les 36 volumes, Jésus a pris tous les livres sur son cœur et s'est élevé comme ça. Enfin, il les a offerts au Père et a dit ces livres s'appelleront les livres du ciel. Donc c'est Jésus qui a donné le nom au livre du ciel. C'est vraiment un livre, des livres saints, c'est la parole de Jésus. Et bon, je dois vous dire que je me demandais, oui, comment faire. Et je dois vous avouer que j'étais dans mon lit, et j'étais dans un demi-sommeil, et j'ai comme senti qu'on me prenait par l'épaule, et une voix qui me disait, lis ma parole. Et ça m'a tellement ébranlée, et j'ai senti tellement l'amour, que je me suis dit, ça c'est Jésus qui dit ça. J'ai senti que c'était Jésus qui disait ça. Mais je n'avais pas encore lu que ceci s'appelait la parole. Et c'est après, quelques pages après, quand j'ai repris le livre, il disait que c'est sa parole. Je dis, ah, donc c'est bien ça. Jésus me confirme que, voilà, c'est là que je dois m'instruire. Prendre connaissance de ce qu'est sa divine volonté en lisant les révélations Jésus à Luisa. La simple lecture est déjà un véritable chemin de sanctification. Alors il y a les 24 heures de la Passion, ça il le demande aussi. Et puis, donner sa vie, donner sa volonté à Jésus. Déjà, quand on désire donner sa volonté, vous ne pouvez pas imaginer comme le cœur de Jésus déborde d'amour pour la personne qui lui dit « Jésus, je voudrais te donner ma volonté. » Mais même si on ne sait pas encore bien la donner, Jésus vient toujours à notre aide, toujours. C'est lui qui fait les choses. Il ne veut plus qu'on les... Ah, Jésus, je veux faire ça. Attends, est-ce que c'est ta volonté ou la mienne, là ? Parce que notre volonté, où nous mène-t-elle notre volonté? Si on regarde notre vie, où nous mène-t-elle notre volonté? Quand on fait notre volonté, très souvent, tiens, celui-là, il ne pense pas vraiment comme moi, mais il m'énerve à la fin. Il n'a pas la même volonté que moi. Moi, j'ai une volonté comme moi, je veux. C'est ma volonté. Et on monte dans les couples, entre enfants, parents. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que vouloir faire sa volonté, Jésus dit. Laisse faire en moi. Et à partir du moment où on lui ouvre un peu la porte, on sent que la volonté de Dieu entre en nous et il y a comme une paix qui se fait. Une paix toute douce. Et Jésus nous apprend tout doucement. Il ouvre notre intelligence à ce qui est sa volonté et la nôtre. Et petit à petit, on commence à se rendre compte que est-ce que je suis là ou là ? Tout comme le corps, c'est Jésus qui parle, l'âme a besoin de nourriture. Et la plus belle nourriture pour nous, pour Jésus, c'est sa volonté. C'est sa volonté, ce qu'Adam a refusé. Ce pourquoi l'homme a été déchu. Jésus veut nous rendre ce cadeau de la volonté, sa volonté. La divine volonté est pour l'âme une nourriture délicieuse. Cette nourriture la rend forte dans la recherche du bien et est débordante d'amour pour son Dieu. Elle remplit l'âme de vivacité, la poussant à croître dans toutes les vertus, à entreprendre de nouvelles œuvres et à faire de grands sacrifices. Je dis bien que ce n'est pas notre volonté, hein, c'est la volonté de Jésus. Elle se reflète dans l'intelligence de la personne. Il l'amène à connaître son Créateur de mieux en mieux. Il se révèle là-dedans, Dieu, c'est incroyable. On n'imagine pas qui est Dieu. On n'imagine pas. Et encore, il ne nous révèle pas tout dans ces 36 volumes. De plus, cette nourriture est disponible à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit, en toutes choses, autant de fois qu'on le désire. Et contrairement à ce qu'il en est pour la nourriture corporelle, on n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Tout au contraire, plus on en prend, plus on en est fortifié, plus on croit dans la ressemblance avec son Créateur.
Le jeûne n'est pas permis.
Pardon ?
Le jeûne n'est pas permis.
Je n'ai pas dit ça.
C'est moi qui dis ça.
Hein ? Le jeûne de ta volonté propre, oui.
Ah oui.
Non, non, le jeûne de sa volonté.
Ça, c'est faire carême.
Oui, ça, c'est vrai.
Ma fille, ne crains pas. Qui vit dans ma volonté vit au centre de mon humanité. Car au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère, ma divine volonté se trouve au centre de mon humanité. Donc Jésus parle bien quand il est sur terre, son humanité, son corps, et sa divinité qui est dans son humanité. Et quand il est au ciel, il y a sa divinité, sa volonté. La divine volonté est dans l'humanité de Jésus, et Jésus, quand il est au ciel, il y a aussi la divine volonté. Et cette divine volonté, je crois que c'est vraiment ça qui fait que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. C'est leur volonté qui est une. C'est ça qui les lie, la divine volonté. C'est là qu'ils sont un. C'est moi qui dis ça, mais je le pressens vraiment. Et au même titre que sans quitter sa sphère où il trône majestueusement, le soleil répand sa lumière partout sur la terre. Ma divine volonté, en mon humanité, rayonne sur chaque personne et chaque endroit sur la terre. Donc nous sommes tous sous le rayon de la divine volonté, comme sous le rayon du soleil. Comme l'homme avait rompu son lien avec la divine volonté, il est approprié que, en son nom, mon humanité fasse les premiers pas pour refaire ce lien. C'est ce que Jésus a fait pendant les 30 ans. Il a vraiment voulu recréer ce lien perdu par l'homme avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que par sa vie, ses paroles et ses souffrances, mon humanité a ramené l'homme vers son Créateur pour qu'il soit de nouveau conforme à l'ordre pour lequel il avait été créé. Un ordre du paradis terrestre, un ordre où tout est beau, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a que de l'amour. C'est là que Jésus veut nous ramener, par sa volonté. Et par le fait que l'âme qui vit dans ma volonté est au centre de mon humanité, tout ce que j'ai fait et souffert est orienté vers cette âme. Écoutez, si elle est faible, je lui donne la force. Si elle est souillée, mon sang la lave et l'embellit. Mes prières la soutiennent, il prie pour nous. Mes bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux. En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme. Vous, moi. Et voilà pourquoi la pensée de mes souffrances est comme naturelle pour toi. Puisque tu vis, il y a Louisa, tu vis dans ma volonté, mes souffrances t'entourent comme des nuages de lumière et de grâce. Donc, voilà, c'est le fruit des souffrances de Jésus. Donc vous voyez, il explique là, mais il explique tout au long des livres, hein, que c'est lui qui fait tout. Il faut juste lui ouvrir la porte de notre cœur, la porte de notre volonté. Allez Jésus, je vais faire ta volonté. Oui, je sais, celui-là, il m'a vraiment blessé. Mais tu veux que je lui pardonne? D'accord, je vais lui pardonner. Vous voyez, c'est comme ça qu'on entre dans la divine volonté. Ah oui, j'ai pas envie de prier, mais j'ai quand même prié un petit peu. Voilà. L'âme qui vit dans ma volonté profite pleinement des fruits de tout ce que j'ai fait et souffert. Ma volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel elle a été créée. Ma volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel... Vous voyez que c'est bien Jésus qui veut le faire. Parce qu'on aurait peur de dire « Ah oui, oh là là, ça va être compliqué, ça va être très difficile. » Il faut se laisser faire par Dieu. Est-ce que nous nous laissons faire par Dieu? Est-ce que nous nous laissons faire? En fait, il faut désirer la divine volonté. Il faut désirer ce don. Et alors Jésus nous remplit. J'ai déjà fini là? J'ai beaucoup plein de choses à dire, mais bon, je vais vous parler un petit peu de Marie alors, parce que Jésus explique, hein, tout au long de ses livres, il explique comment faire, comment réparer pour les gens. Il nous appelle avec lui de réparer pour tous les péchés du monde, pour tous les péchés des gens, et c'est pas compliqué. C'est uniquement prendre tout son amour, tout son en avoir, toute sa volonté, et lui offrir. Mais je ne vais pas l'expliquer cette fois, c'est trop long, c'est pas possible. c'est trop dense. Je vais terminer. Je parle juste un petit peu de Marie parce que c'est trop beau. Je vais vous raconter Marie, comment elle est.
Ah bon, vous voulez pas répéter la phrase là, ma volonté réalise quoi?
La volonté.
Oui.
Ma volonté réalise en elle ce pourquoi elle a été créée. C'est
voilà.
Ça. Hein.
C'est ça.
Oui, c'est pas tout à fait ça.
Ma volonté réalise en elle, dans la personne qui accueille de faire la volonté de Dieu. Ma volonté, c'est le Christ qui parle.
Oui,
ma volonté réalise en elle.
Je dois continuer parce que sinon je n'aurai pas le temps.
Oui.
On peut en parler après. Je vais juste parler un petit peu de Marie, je ne vais pas tout lire, sinon Philippe ne pourra rien dire. Mais ça, c'est important. Marie, elle a vécu totalement dans la volonté. Totalement. Elle n'a jamais fait sa volonté une fois. Jamais. Jamais. Ma fille, le vrai nom de l'Assomption, donc c'est Luisa qui pose des questions et Jésus répond. Le vrai nom de l'Assomption, cette fête devrait être fête de la divine volonté, c'est la volonté humaine qui ferma le ciel, brisa les liens vers le Créateur, ouvrit la porte à la misère et aux souffrances, et met fin à la fête céleste. Je vais un peu plus loin. Donc Marie, comme elle a fait la volonté, quand elle est arrivée au ciel, quand ma mère est arrivée au ciel, au jour de l'Assomption, ma volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création, et ce fut une grande fête dans le ciel, qui n'a jamais cessé depuis, qui débuta dans le ciel, bien que le ciel avait déjà été ouvert par moi, et que de nombreux saints s'y trouvaient déjà, c'est quand la reine céleste, ma bien-aimée mère, arriva au ciel, que commença cette grande fête de ma volonté, parce qu'elle a toujours fait. Voilà. Donc je donnerai, si vous voulez, après, j'ai plein de choses sur l'internet. J'ai un livre comme ceci, le 12. Je peux vous l'envoyer par mail si vous voulez. Vous pouvez lire le 12. Il ne faut pas commencer par le 1, c'est trop compliqué. C'est les souffrances de Luisa, c'est dur. Il vaut mieux commencer par le 12. Je peux l'envoyer à qui veut. Vous le lisez et vous voyez ce que ça vaut.
Est-ce qu'on se le procure?
Je peux vous l'envoyer. Ou alors je vous dirai après. On va laisser Philippe venir.
Merci.
Un bonheur,
oui, c'est un grand bonheur, un très grand bonheur. C'est une nouvelle révélation, ça change la vie. Et donc moi, je vais vous parler un petit peu justement comment cette révélation a changé ma vie dans la pratique. D'abord, j'ai revécu toute ma vie en voyant à mon niveau les trois alliances. Le premier fiat, celui de la création. Le deuxième fiat, celui de Marie de la Rédemption. Le troisième fiat, celui de l'Esprit-Saint de la Sanctification. Et je vous explique un peu, en résumé, comment je vois ça, en voyant rétrospectivement ma vie. Donc moi, je suis né dans une famille catholique, comme c'était juste après la guerre, BCBG, on allait à la messe tous ensemble, la grande famille, enfin voilà. Mais ce qu'on nous apprenait, c'était surtout ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc il y avait toujours, quelque part, ce œil dans un grand triangle qui nous disait « Dieu voit tout, Dieu sait tout, hein, et sois bien sage, sinon c'est l'enfer ». Et donc ça, c'est un peu cette ambiance. Et c'est en fait l'ambiance du permis défendu, de la règle. Et c'est l'ambiance en fait de l'Ancien Testament. L'humanité n'était pas encore très dégrossie, et Jésus explique d'ailleurs dans Luisa que sa dernière révélation est arrivée si tard parce que l'humanité avait évolué, elle était prête à recevoir. Et donc dans un premier temps, qui était l'enfance de l'humanité, celui de l'Ancien Testament, Dieu a agi un petit peu avec une alliance, avec un peuple de façon légale, militaire, comme tu en as parlé, hein. Et voilà, donc cela nous a amené alors à une crainte, une espèce de crainte un peu servile, jusqu'au moment où Dieu a commencé à se révéler comme époux, on l'a dit ce matin, et où le Rédempteur est apparu, et grâce au fiat de Marie, Jésus a révélé tout son amour jusqu'au moment de la
du terme, c'est-à-dire de la résurrection. Bien, dans ma vie, ce fut un peu la même chose. Donc moi, j'avais un petit peu peur quand j'étais enfant, bien de ne pas faire bien, de faire mal, d'être récompensé ou d'être puni, d'aller à confession tous les 8 jours, faire la file devant le confessionnal parce qu'au collège c'était comme ça, hein, ou d'aller à la messe 3 fois par semaine avec un petit carnet qu'on devait signer, sans quoi on risquait des problèmes. Donc toujours là derrière, il y avait la sanction qui était possible. Ben alors il faut vous dire que on en a un petit peu marre quand on devient adulte, quand on étudie, on est étudiant, on remet tout en question, on fait un petit peu son siècle des Lumières à nous, en disant tout ça, moi je l'envoie promener maintenant, c'est trop dur, un Dieu pareil, j'en ai pas envie. Vous voyez? Et donc, voilà, et alors on se casse la figure parce que on fait sa volonté propre, justement. Et on s'éloigne de plus en plus. Et voilà, un jour, ça ne va plus. Eh bien, moi, j'ai fait un petit peu ce chemin-là aussi. J'ai grandi, j'ai étudié, j'ai eu mon diplôme, je me suis marié, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'en ai adopté, j'ai fait plein de trucs, j'en ai fait, jusqu'à épuisement et jusqu'à un grand échec, un peu à tout niveau. Là, je suis tombé bien par terre parce que j'avais bien fait ma volonté. Et alors, c'est là que, en fait, le deuxième fiat est apparu, celui de Marie. Je fréquentais un ashram védantique parce que quelque part je me disais, eh bien, j'ai envie quand même de découvrir quelque chose parce qu'au fond de moi, il y avait quand même un appel qui m'attirait à avoir une vie spirituelle quand même en profondeur. Donc, j'avais entendu parler du Vedanta, etc. Et comme c'était très à la mode, j'étais allé près de Paris dans un ashram et pendant 3 ans, j'ai fréquenté cet ashram. Jusqu'au moment où, je pense, l'Esprit Saint, le Seigneur, est venu me chercher. Et je me souviens, j'étais dans ma douche, j'ai eu un froid impossible à l'intérieur de moi. Je suis tombé par terre, je suis allé revoir le Swami, qui était en fait mon guide à ce moment-là, qui m'avait donné un mantra, etc. J'ai dit, Swami, je ne peux plus rester ici, c'est fini. Et il m'a dit bien gentiment, continue ton chemin. Bon, je suis parti, merci Swami, au revoir. J'ai déambulé à Paris et je suis arrivé à la rue du Bac. Ah. Et là, je suis entré et j'ai vu au-dessus de l'hôtel, venez au pied de cet hôtel, vous y recevrez de grandes grâces. Certainement vous avez déjà vu ça aussi là-bas. Et donc je me suis mis à genoux et j'ai pleuré comme un gamin et j'ai demandé à Marie de devenir mon gourou, entre guillemets, puisque j'en sortais d'un. Ce qu'elle a accepté d'emblée, je suis rentré chez moi. 3 jours après, une de mes chères patientes me dit « Ah, vous savez, il y a un groupe de prière mariale tout près de chez vous à Wavre. » « Oh, quoi, c'est pas possible, c'est ce que je cherche. » Merci Seigneur, j'y suis allé et depuis lors, je suis dedans. Et c'est Jacqueline qui est la bergère actuellement. Voilà, donc ça c'était mon deuxième fiat. Et donc, je me suis dit « Bien, bon, je vais faire de bonnes choses pour le bon Dieu maintenant. » Mais c'était ma volonté. Je vais faire de bonnes choses pour Dieu. Vous voyez? Et donc j'ai quelque part changé de registre, mais toujours avec ma volonté. Et là, de nouveau, quelque part, je suis arrivé à un moment aussi où ça n'allait plus. Et donc, en pensant ce matin à l'évangile, je me suis dit, au fond, moi j'étais un petit peu dans le cas du fils prodigue, hein, qui avait fait son chemin, il était parti, il était, voilà. Et puis, je suis revenu quelque part au Père, et j'ai ressenti, et ça c'est à partir du moment où j'ai lu Louisa, que en lâchant ma volonté propre, eh bien, je sortais de ce champ de porc où je mangeais des gousses et où j'entrais de nouveau avec une nouvelle alliance, où le Père me donnait une nouvelle alliance pour entrer dans sa volonté à lui. Et ça, donc, c'est une découverte d'un pardon inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et d'une nouvelle vie avec le Seigneur. Et là, je vous cite un passage ici d'un des livres, je ne sais plus lequel, mais dont j'en ai lu une quinzaine aussi jusque maintenant. Ah, c'est gentil, un petit verre d'eau. Justement, la bouche un peu sèche. Merci beaucoup. Tu as eu une bonne inspiration.
Merci.
Jésus est tellement désireux qu'on entre dans sa volonté. Il nous le dit. Et c'est un peu le langage du Père qui rencontre le Fils prodigue. Mon amour est si grand que j'oublierai tout de votre passé. Vos péchés, vos méchancetés, je les enfouirai dans l'océan de mon amour pour les brûler totalement. Et nous pourrons commencer une nouvelle vie ensemble, tout immergé dans ma volonté. Si vous me recevez, je resterai avec vous comme un père parmi ses enfants. Nous demeurerons ensemble dans une seule volonté. Et voilà, donc, c'est une décision. Comme a dit Jacqueline, c'est le Seigneur qui fait tout. Mais nous avons quand même à renoncer à notre volonté. Et ça, c'est parfois douloureux. Hein? C'est vrai, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça. Et puis, voilà, mais Seigneur, tu fais tout avec moi, tu es là. Et donc, c'est un... très bonne chose, parce que si je suis dans la volonté de Dieu, quand je fais quelque chose, je me pose la question, Seigneur, est-ce que toi tu aurais fait ça? Ah non. Ok, donc je ne le fais pas. 5 minutes après, je fais de nouveau quelque chose, je rencontre une personne, je critique dans ma tête, ou bah, Seigneur, toi tu aurais dit ça? Non. Eh bien alors, pardonne-moi, je ne le dis plus. Et donc à chaque instant de notre journée, voilà. Et donc, quand je commence ma journée, maintenant je vais vous dire un peu comment se passe une journée, puis ce sera terminé. Voilà, il y a une prière que Jésus nous a enseignée dans sa divine volonté. Et tous les matins, avec Jacqueline, on dit cette prière. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que cette décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Et nous ajoutons, nous te le demandons Seigneur, par la Sainte Vierge Marie, prends-nous par la main Sainte Vierge Marie pour nous guider dans cette volonté, parce que ce n'est pas toujours facile. Gloire à toi Seigneur, amen fiat. Voilà, ça c'est notre premier. Et alors, Jésus nous demande, dans notre journée, de faire des rondes dans sa divine volonté. Et c'est une façon de prier, une façon nouvelle de prier qui est vraiment extraordinaire, et qui n'est pas difficile. Donc, je me lève, je prépare le petit déjeuner, on mange, je vais faire un tour avec les chiens, on a 2 chiens, il faut les promener le matin, et voilà comment ça se passe, je sors, et je vois, c'est encore la nuit, un beau ciel clair avec plein d'étoiles, plein de petites étoiles qui scintillent. Waouh, que c'est beau! Et puis je vois la neige et on voit tous ces petits cristaux qui scintillent. Et je dis, parce que Jésus nous le dit, Seigneur, je mets sur chacun de ces cristaux, sur chacune de ces étoiles, tes « je t'aime ». Et je mets mes « je t'aime ». Et je prends tout ça comme un grand bouquet et je te l'offre, Seigneur, parce que c'est de toi tout ça. C'est toi tout ça. Je t'offre tout ça comme un beau bouquet. Et avec tous ces éléments de cette création qui est de toi, eh bien, je t'offre mon adoration, mon hommage et ma louange. Et je te l'offre avec ta puissance, avec ta sagesse et avec ton amour, avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et donc, j'offre Dieu à Dieu. Voyez, c'est ça que Jésus nous demande. Nous pouvons nous offrir à Dieu, mais nous sommes toujours des pécheurs. Alors, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Notre ego. Et notre ego, qu'est-ce qui produit? Beaucoup de péchés. Alors, c'est vrai qu'on peut tout offrir à Dieu. On offre aussi ses péchés, bien sûr, Jésus nous le dit. Donnez-moi votre misère, avec Josepha, avec Sœur Faustine, avec Marguerite, Marie. Donnez-moi vos misères, vos péchés, je les donne. Mais Jésus, je voudrais te donner quelque chose de plus beau, parce que je veux entrer dans ta divine volonté. Eh bien, donne-moi tous mes attributs. Donne-les-moi. Ah oui, Seigneur Jésus, je t'offre ces attributs-là. Voilà, eh bien, ta création, toute la beauté de ta création, de ta puissance paternelle de créateur, je te l'offre. La puissance, c'est le Père. Je t'offre. Donc, je fais ça, je fais ma promenade, et je suis heureux parce que mon cœur... Ouais, je vois mes chiens, oh Seigneur, je t'offre leur joie, je t'offre tout ça. Et donc, le cœur est en joie parce que j'offre dans la puissance du Créateur toutes les merveilles de sa création. Ça, c'est une prière, une première ronde. Et le Seigneur nous demande de faire trois sortes de rondes. La ronde de la création, le premier fiat, la ronde de la rédemption, et là, j'entre dans la vie de Jésus. Et j'offre au Père, j'offre à la Trinité, tous les moments de la vie de Jésus. Son enfance, ses relations avec Marie, mais surtout sa passion. Seigneur, je t'offre ton précieux sang, surtout. Voilà. Et avec toute l'humanité, je te rends ce sang qui a touché toute l'humanité, je te l'offre, et ensemble, nous nous prosternons devant toi et nous t'offrons de nouveau, nous t'offrons, ou en leur nom, je t'offre, je t'offre mon adoration, notre hommage et notre louange avec ta puissance, avec ta sagesse, avec ton amour dans ta divine volonté. Donc c'est une ronde. Et je m'imagine ça comme ça, moi, je le vois un peu graphiquement. Et d'ailleurs, Jésus parle aussi de ça. Il dit qu'il est un point et que Dieu et l'éternité et la création, c'est un point, car tout est ramassé dans le temps et dans l'espace. Et ce point qui a créé le monde, c'est répandu, et moi je me trouve, et nous nous trouvons à la périphérie. Alors, je plonge dans le cœur de Jésus, la plaie du cœur de Jésus, qui est la porte d'entrée du règne de sa divine volonté, déjà depuis Marguerite Marie, dans son testament du cœur de Jésus à Marguerite Marie, il dit « Voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. » Vous voyez, et donc je rentre par la porte, j'entre dans le royaume de la divine volonté, je me saisis de tous les attributs de Dieu. Il le dit, prends, puise mes attributs, la miséricorde, le précieux sang, les mérites, la passion, la résurrection, tous les mérites de Jésus, je les prends. Donc je plonge par le petit point, je prends tous ces mérites, je les répands sur toute la création à la périphérie, je les ramène et je les offre couverts du précieux sang de Jésus. Et donc ça, c'est l'offrande des mérites de Dieu à Dieu, et dans une troisième ronde, qui est la ronde de la sanctification, là je l'applique dans tous les moments de ma journée. Par exemple, l'autre jour, je me trouvais dans une salle d'attente, dans un hôpital, et je me disais bien, Seigneur, je t'offre. Je plonge dans ta divinité, par la porte de ton côté, et je t'offre toutes les personnes de toutes les salles d'attente du monde. Je t'offre tous les médecins du monde. Je t'offre tous les patients du monde entier. Je les rassemble et je projette ton précieux sang sur tous. Je te les ramène et je te les offre dans ta divine volonté. Vous voyez, et ça, on peut le faire dans toutes les circonstances. Vous êtes dans le train, mais c'est extraordinaire parce que vous êtes en communion avec toute la création que vous rassemblez et que vous offrez dans le cœur de Dieu.
Du présent, du passé et du futur.
Du présent, du passé et du futur. Donc, tous les hommes passés, présents et futurs, je les réunis dans ta divine volonté et je te les offre couverts de tes mérites. Et donc, c'est Dieu et la création que j'offre à Dieu quelque part. Et c'est ça, cette unité qui est cette unité qui est extraordinaire parce que on n'est pas dans notre petite volonté propre qui est limitée à notre ego, mais il y a une espèce d'identification divine et en même temps une substitution avec toute l'humanité. Donc c'est vraiment une révélation, je dirais, tout à fait nouvelle. C'est quelque chose d'inattendu, de splendide, mais qui est tellement grand que ça nous dépasse. Et c'est vrai qu'au début, on était comme un petit peu perdu en lisant ça. On était perdu. On se demandait, mais comment appliquer ça dans ma vie? Mais je pense que simplement, comme disait Jacqueline tout à l'heure, vivre tout avec Jésus, eh bien, ça rend les choses plus faciles. Quand je dis, Seigneur, maintenant je me lève, c'est toi qui te lèves. Dans mon boulot, en tant que médecin, je fais encore mes consultations, même si c'est mi-temps, parce que je décroche tout doucement. Mais depuis lors, je travaille autrement. Je dis, ben, Jésus, puisque tu veux qu'on fasse tout ensemble, ben, c'est toi le médecin à l'intérieur de moi. Donc éclaire-moi pour savoir, hein, donner un bon diagnostic, un bon traitement, et chercher le bon remède, etc. Ben oui, je dis, Seigneur, je te prends au mot, c'est toi qui travailles en moi. Toi, tu fais tout, moi, je ne fais rien. C'est aussi une parole de Jésus. Et donc voilà, eh bien, ma vie de praticien a changé depuis. Je vous assure que les choses sont plus faciles pour moi, plus légères, et je pense que le patient s'en ressent aussi. Vraiment, dans la vie pratique, quand on fait tout comme ça avec Jésus, les choses changent, ça change vraiment. Et puis, il y a aussi cette notion d'amour inconditionnel, et cette parole, « Mon amour est si grand que j'oublierai tout de votre passé. » Alors, mon passé, avec toutes les fautes que j'ai faites, les chutes, mes péchés, voilà, mes méchancetés, tout ça, elles sont enfouies dans l'océan de mon amour, elles sont brûlées, et je commence une nouvelle vie ensemble avec Jésus. C'est ça qui est merveilleux. « Oh, merci Seigneur, je peux commencer une nouvelle vie avec toi. Tu as tout oublié, tu as tout jeté loin de toi. » Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et alors, par exemple, la messe, on la vit tout à fait autrement aussi. La messe, on la vit autrement. Hein. Par exemple, l'offrande, on va rassembler de nouveau toute l'humanité passée, présente et future, et étant membre du corps du Christ, membre du corps mystique du Christ qu'est l'Église, nous offrons tous ensemble, dans cette substitution extraordinaire, en leur nom, eh bien, on offre Jésus, le corps du Christ, au Père. Ça devient universel, c'est extraordinaire. Et à la communion, eh bien, on rassemble aussi toute l'humanité, tous les gens de passé, présent, futur, tous ceux qui ont été indifférents à l'Eucharistie, tous ceux qui ont fait des communions indignes, etc. On les recouvre du précieux sang de Jésus. On vient les présenter, on les dépose sous les genoux du Père, Jésus le dit, déposez sur les genoux du Père, et avec mon précieux sang, eh bien, vous redonnez à cette humanité passée, présente et future l'image telle que le Père l'a voulu au départ, et vous satisfaites, alors, vous satisfaites, je ne sais pas comment dire, le Père. Donc le Père est satisfait de nouveau, il retrouve la création telle qu'elle était avant, et tout est oublié. Voilà. Donc, c'est merveilleux, mais il faut creuser, et comme disait Jacqueline, il faut le désirer. Il faut le désirer, c'est la première chose. Le désirer, et puis lire, s'informer, parce que le livre du ciel, pour moi, c'est une nouvelle révélation. Et quand on demande à Jésus, mais pourquoi c'est si tard que tu as donné? Parce que vous n'étiez pas prêt. C'était pas. Parce qu'il a fallu le premier fiat, le deuxième fiat, et bien maintenant on va venir. Après un temps de purification, on est en plein dedans dans cette purification. Hein? Et puis voilà, on n'est pas encore au fond du trou. Puis va revenir une ère, et Jésus parle de 4000 ans avant sa venue, 2000 ans pour la rédemption, et puis maintenant on va vivre 1000 ans de grâce après cette purification et ce renouveau. Enfin voilà, voilà où l'Esprit Saint nous conduit, nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va, mais je pense qu'on est à la veille d'une ère merveilleuse. Et on ne doit pas se lamenter en disant le monde va mal, tout va mal. Non, non, le Seigneur nous promet des choses merveilleuses, et voilà, je crois qu'il faut le remercier pour ça. Et voilà, merci pour votre attention.
Quelle perspective! Je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le chapelet de la miséricorde. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme.